Cité Culture, l'émission culturelle de Radio Cité proposée par Jacques Magnol.
Aujourd'hui, nous allons parler des résultats du concours international d'urbanisme, qui est un concours qui a été présenté, enfin, ouvert par la Fédération des architectes suisses, section Genève. Et nous sommes avec Charles Pictet, architecte et membre du jury, ainsi que Pierre Bonnet. Bonjour, Charles Pictet.
Bonjour.
Et Abel Duarte.
Bonjour.
Est-ce que pour rappeler d'abord, nous allons parler donc de ce concours qui a été lancé, qui concerne le territoire englobant les quartiers des Vernets, des Acacias et de la Praille, qui est une pièce majeure du développement urbain de l'agglomération genevoise du XXIe siècle. Donc la Fédération des architectes suisses, par exemple, Charles Pictet, a lancé ce concours international pour tenter d'apporter une réponse, pour, disons, c'est la contribution des architectes à la recherche sur le niveau de l'urbanisme.
Oui, la Fédération des architectes suisses est une fédération qui comprend différentes sections sur le territoire de notre pays, et la fédération est représentée à Genève par une section, et c'est notre section genevoise qui a décidé d'entreprendre ce concours. C'est un concours d'idées et une consultation internationale pour entamer une discussion sur le secteur de la Praille et des Acacias.
Donc, comme vous l'expliquiez dans les brochures qui accompagnaient ce concours, le but est de mettre à disposition de la collectivité cette contribution. C'est-à-dire que vous allez, ce concours international, vous allez en remettre les résultats, vous allez faire une exposition qui pourrait être utilisée par, disons, les politiques et ceux qui pensent le Genève de demain.
Alors oui, en tant qu'organisateur du concours, c'est des données importantes. Nous ne poursuivons ni but politique, ni but économique. Nous sommes une association qui poursuit un but culturel. Et c'est dans ce but-là, et uniquement dans celui-là, que nous avons décidé d'entamer ce travail de mise en place d'un concours que nous faisons de manière bénévole, de façon à réunir ces idées et de façon aussi à encourager une réflexion globale sur le territoire. La réflexion sur le territoire à Genève, est, par le biais des plans d'urbanisme, est une tradition dont on a vu des quantités de plans, qui ont fait l'objet d'une très belle publication par M. Léveillé. Et on voit des projets, certains très soigneux et respectueux de la trame de la ville, certains plus provocateurs. On pense par exemple au plan Braillard qui a été fait dans les années 30. Tous ces plans qui ont soutenu la réflexion sur la ville ont maintenant pas mal d'années, et en voyant l'enjeu de la construction de la ville de Genève et toutes les discussions qu'il y a sur la crise du logement notamment, nous nous sommes dit qu'une réflexion sur le quartier de la Praille et des Acacias était maintenant vraiment d'actualité, et que ce concours allait permettre de pouvoir initier peut-être un processus qui tarde un peu à venir de la part de nos autorités.
C'est la plus grande portion de la ville qui reste encore dans laquelle on puisse réaliser un projet d'envergure.
Oui, il y a plus de 2 millions de mètres carrés sur ce secteur qui se trouve aux portes de la ville, juste au bord de l'Arve. Donc c'est une situation extrêmement privilégiée dans la plaine de l'Aire. Plutôt que d'imaginer devoir construire absolument en zone agricole ou bien en périphérie des villages existants, cette portion de territoire est évidemment extrêmement bien située pour pouvoir y penser une ville avec une densité comme celle qu'on connaît dans les quartiers de la ceinture fasciste.
Mais avant de rentrer dans ces projets, on parlait des politiques, est-ce que c'est aussi une manière de relancer le dialogue entre les politiques et les urbanistes, quelque chose qui est beaucoup d'actualité en ce moment?
C'est bien sûr notre souhait dans cette initiative. Nous n'avons à aucun moment souhaité faire la leçon aux autorités ou bien créer une forme de conflit entre la profession d'architecte ou d'urbaniste et les services du DAEL qui sont en charge de la planification du territoire.
Ce dialogue manque actuellement entre les professionnels et les politiques.
Eh bien, on parle, vous auriez eu l'occasion de soulever ce sujet certainement avec M. Vessière, qui a fait plusieurs interviews ici. On parle de le rôle d'un architecte cantonal, par exemple. Ça serait un des rôles d'un architecte cantonal que d'entretenir cette relation entre la profession et les services de l'État, et aussi d'initier ce type de réflexion globale, de manière à éviter que la planification urbaine se fasse par un rapetassage au coup par coup des opportunités. Cette planification doit aller en amont, même si elle peut sembler des fois irréelle ou irréaliste. L'histoire l'a montré, les grands projets de planification urbaine ont rarement abouti à une réalisation similaire au plan initial, mais par contre les grandes lignes qui sont données par une réflexion d'ensemble, généralement débouchent sur une forme d'ordre et de concertation qui sont le propre de la construction des villes.
Donc les urbanistes seront là un peu pour anticiper, en fait, ce que les politiciens ne peuvent pas faire forcément.
Ce qu'il faut dire peut-être, c'est que la ville n'est pas figée. On voit que ce secteur aujourd'hui est en mutation. On voit les grands sièges de la banque Pictet, de Rolex s'établir plus fortement encore. Et d'autres occupations, notamment les CFF, qui envisagent une revalorisation de leur terrain. Donc c'est, je dirais que le projet, il est déjà parti. Simplement, ce qu'on tente avec ce projet, c'est pas de venir après, c'est de venir pendant. Et cependant, suppose peut-être de rassembler aujourd'hui des tentatives assez indépendantes qui pourraient être rassemblées dans un projet partagé et commun, en rappelant que vous avez un site qui fait 3 km de long. À titre de comparaison, l'aéroport en fait 4. Donc on est sur une portion de territoire énorme dans lequel on peut envisager donner la place aux choses de manière logique et pour un avenir relativement important.
Et que représente la surface des voies des CFF, je veux dire, par rapport à l'ensemble, parce que c'est carrément l'espace le plus libre.
On peut le voir comme ça, je dirais, tout dépend de l'activité qu'on veut y faire demeurer sur les années à venir. Donc je dirais que les CFF peut-être occupent une moitié du territoire dans les grandes lignes. Mais le rail en occupe plus parce qu'il dessert aussi tout le secteur qu'on appelle la FTI, donc la Fédération des Terres Industrielles, qui regroupe toutes les industries ici présentes sur le site.
Alors nous sommes surtout aujourd'hui réunis pour parler des résultats du concours. Est-ce qu'on pourrait d'abord savoir quelle importance, comment il a été reçu? Vous avez eu des architectes de nombreux pays. Combien de projets avez-vous reçus?
Près d'une soixantaine. Donc effectivement, c'est une réponse importante. Au vu des participants, c'est vrai que beaucoup de projets européens sont présents, et même un petit peu au-delà sur quelques projets.
Vous avez des projets d'autres d'Amérique du Nord,
oui,
du Sud,
d'Argentine, sauf erreur, du Japon. Mais c'est des cas isolés, mais malgré tout, quelques-uns se sont intéressés à cette démarche.
Et au niveau de la qualité, est-ce que la plupart des projets proposent des solutions intéressantes? Je pense qu'il y a aussi des projets farfelus, mais...
On s'est aperçu en faisant ce jury, d'ailleurs au passage un jury international, qui n'a pas forcément... pour le plus grand nombre, une connaissance parfaite du lieu, qu'on a dû, disons, instruire sur la valeur de ce lieu, mais en même temps, grâce à leur arrivée, a permis aussi un regard extérieur très fort. Je nommerai au passage Luigi Snozzi, Patrick Berger, Sylvie Agmur, ou des gens, disons, pour la profession, qui sont très importants. Donc, je dirais des concurrents étrangers et un jury aussi relativement ouvert. Et puis, disons que ces projets ont permis de voir à quel point la difficulté est là. Donc forcément, il y a des projets qui n'ont pas forcément la qualité requise, mais ils dénoncent en fait toute la difficulté qu'on a à embrasser un tel territoire.
Est-ce que vous avez eu des réponses d'architectes particulièrement connus, de grands cabinets?
Oui, effectivement, il y a quelques projets de grands cabinets. Je crois qu'on peut en citer un, qui est celui du cabinet Zaha Hadid, donc récemment primé internationalement.
Américaine.
Exactement, oui. Mais établi à Londres.
Et parmi, alors, est-ce que vous avez déjà qui a le premier prix?
Oui, tout à fait. Les prix ont été attribués vendredi passé, à la fin de la session du jury. Ils seront divulgués lors d'une conférence de presse mercredi 19.
Le jour de la présentation de l'exposition qui sera présentée aux Acacias, c'est ça?
Absolument. Mais vu que nous sommes une organisation bénévole, nous ne sommes pas forcément concertés sur la divulgation des noms des bureaux primés. Les bureaux sont bien sûr avertis. Je crois savoir que les résultats du concours sont en ligne sur le site FAS 2020, donc FAS Genève 2020, mais je ne sais pas.
Donc s'ils sont sur le site et qu'on peut le voir en ce moment, vous pouvez nous en parler.
Je ne sais pas dans quelle mesure on est censé devoir donner cette...
Ou Abel va aller imprimer un feuille tout de suite.
Moi, je ne l'ai pas trouvé personnellement sur le site il y a encore 2 heures. Mais pourquoi pas un petit scoop et parler ensuite des tendances de ces mêmes projets.
Non, je pense que... Ce qui est intéressant, c'est de traduire un peu les attitudes, étant donné que c'est des projets qui s'expriment beaucoup au niveau de leur perception. Donc le moment-là choisi permet peut-être de décrire dans les grandes lignes ce qui se passe dans ces projets.
Revenir sur les enjeux, on avait l'impression que ces enjeux parlaient de logement, de la mixité entre l'emploi et l'habitat, une grande importance donnée aux espaces et aux équipements publics, et surtout un suivi du patrimoine bâti. Ces projets primés respectent ces tendances, ou quelles sont les tendances qui ont été le plus suivies?
Peut-être que je vais essayer d'esquisser une première réponse générale sur la nature de ces 5 prix qui ont été décernés. La difficulté d'une planification sur une pareille portion de ville est apparue au cours des sessions du jury. Et finalement, on pourrait dire en résumé que sur les 5 projets primés, les 2 premiers prix ne sont pas des projets qui proposent réellement une trame de ville, une solution à appliquer, mais plus une stratégie. Et des 2 stratégies qu'on pourra peut-être commenter un peu plus dans le détail, mais que les 3 projets, donc des 3e, 4e et 5e prix, eux sont par contre 3 manières d'occuper ce territoire avec une trame bâtie. Donc en fait, 3 projets qui viennent créer un tapis, qui viennent créer une nouvelle ville. Et puis 2 projets premiers, presque placés ex aequo par le jury, puisqu'ils étaient tous les 2 très différents, et qui viennent chacun, à sa manière, montrer quels pourraient être les instruments d'une planification.
Alors comment on pourrait distinguer les critères qui vous ont permis d'établir ce classement? Quels ont été justement ces critères importants?
Ce qu'on peut dire, c'est que, dit autrement... que Charles Pictet vient de l'énoncer, c'est qu'il y a des projets qui, en quelque sorte, opèrent par tabula rasa, c'est-à-dire qui décident que ce territoire est à reprendre dans une majeure partie, autant d'un point de vue de sa fonctionnalité que, justement, dans son tracé. Donc ça renoue, en fait, avec une sorte de tradition de l'urbanisme où on dessine le grand plan qui va organiser l'avenir d'un territoire. Mais on sait pertinemment que ce territoire est déjà tracé, en quelque sorte, même si aujourd'hui la fonction, dans certains cas, est disons, à remettre en question, probablement, il y a un tracé qui est dominant. Et en fait, ce qu'on perçoit, justement, dans l'attitude de ces 2 premiers prix, c'est qu'on ne repropose pas véritablement un nouveau tracé de ville, dans la tradition urbaine, mais qu'en fait, on va donner un imaginaire et un destin à des portions de territoire. Donc on opère, je dirais, plus par découpage d'un lieu, en lui donnant des densités, des affectations plus précises qu'aujourd'hui, dans l'idée que ça va faire partie de la ville, et non pas, comme c'est le cas aujourd'hui, comme un morceau détaché. Donc comment rattacher ce territoire à la ville?
Donc cette parcellisation, j'entends en ce moment-là que plusieurs cabinets d'architectes pourraient ensuite participer à des réalisations. Selon un plan général.
Oui, bien entendu, c'est l'enjeu de tout plan d'urbanisme que d'établir une stratégie qui va pouvoir ensuite permettre aux enjeux de la planification individuelle des particuliers ou de la ville propriétaire des différents lots de terrain de les mettre en valeur, et ça dans une portion de temps qui n'est pas du tout définie, n'est-ce pas? Un projet comme celui que nous lançons est une réflexion, on l'a appelé Genève 2020, parce que 2020 est un joli chiffre, mais ça aurait pu s'appeler 2050, au même titre. C'est une réflexion qui peut voir une mise en œuvre de certaines portions sur plusieurs décennies.
Alors, quelles seraient les particularités, par exemple, entre le premier et le deuxième prix? Est-ce qu'il y a vraiment des conceptions différentes, des grandes constructions? Est-ce que les constructions en grande hauteur ont été retenues? Comment est-ce que vous avez envisagé ce pays, enfin, comment envisage-t-il ce paysage ou cette parcellisation?
Ce qu'on peut dire, Pierre, c'est Bonnet, que, disons, chaque auteur de projet se doit d'une lecture du lieu. Donc, dans cette lecture du lieu, on fait ressortir les paramètres d'un site. Dans le cas du premier, il s'agit d'une part de faire ressortir le caractère topographique du lieu. On a ici, comme nous l'a expliqué de façon très élaborée le professeur Léveillé, sur en fait la frontière d'une moraine dans laquelle s'étalait le lac Léman. Il y a dans un temps évidemment très reculé au moment du retrait du glacier. Cette moraine, malgré le fait qu'elle soit bâtie, qu'elle soit occupée, qu'elle soit partiellement boisée, est encore là. Dans le cas du premier prix, c'est un regard premier sur cette nature géographique du lieu, et il va reconnaître en fait l'appui en quelque sorte de son projet par la moraine, en établissant en fait un site fonctionnant sur deux états. Un état qui serait celui d'un grand parc au pied de la moraine, séparé par la route des jeunes, et de l'autre côté, une politique d'urbanisation qui est en marche et qui serait renforcée, avec effectivement des points hauts qui apparaissent sur le carrefour de l'étoile, qui représentent de façon évidente un petit peu le carrefour de ce grand lieu, son centre de gravité par ailleurs. Donc on voit ici en fait une démarche qui donne une nouvelle lisibilité, qui est généreuse, qui paraît au prime abord utopique, c'est-à-dire de consacrer une partie aujourd'hui occupée par les voies, dans un devenir, il le dit très bien, dans les 50 prochaines années, donc il ne propose pas de l'immédiat là-dedans, mais d'y consacrer un grand espace dans lequel se retrouverait notamment le stade, ou peut-être même encore d'autres éléments à caractère public. Voilà peut-être dit dans les grandes lignes ce qui se passe pour le premier prix.
Charles Pictet, le deuxième a-t-il une conception opposée, totalement différente de ce que vous avez présenté?
Alors oui, c'est une autre alternative qui nous est proposée. On dit deuxième rang, deuxième prix. Le règlement sur les concours SIA nous obligeait à classer les projets avec de premier, deuxième, etc. Les projets lauréats ne pouvant pas être mis ex aequo. On a considéré que ce deuxième prix était littéralement à lire en parallèle avec le premier prix, puisqu'ils sont en quelque sorte complémentaires dans leur démarche. Le deuxième prix, on pourrait dire, est un projet qui travaille de manière ponctuelle sur le secteur, en individualisant des parcelles de façon à créer des événements urbains dans ces secteurs-là. C'est un projet qui travaille donc par touche. Il ne tapisse pas le secteur, un peu comme le premier prix qui propose de s'articuler autour d'une reconnaissance du territoire. Eh bien, le deuxième prix, lui, propose de s'articuler autour de quelques points forts. C'est un projet qui met en évidence en particulier le triangle qui se situe entre le Larve, la route des Acacias et la route des Jeunes, qui est un secteur qui est comme ça très proche de la ville, sur lequel il y a beaucoup d'activités qui sont susceptibles de disparaître ou bien d'être modifiées. On pense en particulier par exemple à la caserne des Vernets qui pourrait une fois dans un proche avenir quitter ce secteur, donc libérer une très grande parcelle au bord de l'Arve. On parle aussi d'un éventuel départ de Firmenich qui regrouperait ses activités en dehors de ville. Il y a la Japan Tobacco aussi qui est un énorme ensemble de bâtiments industriels le long de la rue des Acacias. Ce deuxième prix la particularité de travailler non pas par un dessin de proposition d'urbanisme, mais par collage de bâtiments empruntés au répertoire de l'architecture moderne du XXe siècle, où on place des bâtiments qui sont des bornes et qui viennent suggérer en fait ce que l'architecture peut faire à la ville. Donc c'est un urbanisme qui est très stratégique, un urbanisme d'architecte, puisqu'il montre comment la profession peut venir avec des interventions de qualité moduler un territoire. Donc c'est un projet dont la stratégie est à la fois très ambitieuse, puisque on le verra lors de l'exposition, les bornes qui sont par exemple proposées aux trois angles du triangle du secteur Acacia sont des bâtiments de haut, de gabarit haut, pour marquer les angles de cette portion de terrain. Il propose dans d'autres secteurs, comme le secteur des rails et des voies CFF, de travailler par adjonction de solitaires, de bâtiments dont la position n'est pas forcément définie, comme celle de ces bâtiments hauts, qui eux par contre se situent sur les angles, mais qui eux se feraient au cours des opportunités qui pourraient se présenter dans un proche avenir ou dans un avenir plus lointain sur ce secteur.
Est-ce que ce serait un grand nombre de bâtiments et serait-il aussi de très grande hauteur ?
Eh bien, le projet suggère, par exemple, de mettre trois bâtiments ou trois ensembles de bâtiments de très grande hauteur sur les angles de ce triangle des acacias. Ça n'est pas une proposition qui est figée, c'est une proposition intelligente qui montre un exemple de ce qui pourrait être fait.
Et est-ce qu'il y a un rapport avec les prix suivants ? Ou est-ce que c'est encore une autre conception que vous avez remarquée ?
Ce qu'on pourrait dire, en tout cas, Pierre ce Bonnet, qui rassemble ces deux premiers prix, c'est une recherche d'identité pour ce lieu, qui est certes très très différente, mais cette espèce d'élan qui nous mènerait vers une reconnaissance, une identification de ce secteur, comme je le disais précédemment, faisant partie de la ville, mais d'une partie spécifique de la ville. Donc dans les cas des deux projets, on rentre dans un lieu qui n'est pas nulle part ailleurs. Donc ça, c'est un fait essentiel. Cette question apparaît peut-être plus ou moins fortement dans les projets qui suivent dans les prix, c'est-à-dire les trois prix suivants. Il y a un projet que je saisis qui est par exemple le quatrième rang, un projet hollandais, on va dire, sans en révéler l'auteur, qui cherche en fait à établir une relation entre l'Arve et tout l'intérieur de ce secteur de la Praia Acacia. Donc il fait pénétrer une sorte de, il l'a appelé un glacis végétal, mais c'est en quelque sorte une sorte de grand parc, disons linéaire et organique, c'est-à-dire continu, entre l'Arve et qui mène jusqu'au stade de la Praille. Alors c'est clair que c'est une chose qui porte une grande empreinte au territoire, qui est porteur d'un grand imaginaire, donc là aussi on parle d'un lieu comme un autre lieu, mais évidemment il suppose une mise en œuvre beaucoup plus délicate à travers le tissu urbain, et en quelque sorte c'est un projet qui s'impose au lieu et qui ne fonctionne pas véritablement avec le lieu et les forces en présence, mais il est pourvu d'une très grande élégance et surtout nous offre un regard absolument renouvelé qu'on n'aurait jamais pu avoir sur ce lieu sans cette manière de consulter les architectes.
Parce que vous parlez de l'identité du lieu, il semble qu'il y ait une polémique importante concernant ces aménagements. Est-ce que il y a une solution au problème de la mixité entre les territoires commerciaux, de logement et enfin toutes les activités qui doivent cohabiter.
Oui, dans tous les projets, c'était un des critères, c'est que les candidats insèrent dans leur projet d'urbanisme un certain nombre de logements, on l'avait fixé à 20 000. Et puis qu'ils traitent le problème de la mixité. On a vu à travers l'histoire de l'urbanisme moderne que des quartiers exclusivement destinés à l'habitation ou exclusivement destinés au commerce sont des urbanismes qui sont des fois difficiles, à la fois socialement et économiquement. Donc c'est une des données du concours. Maintenant, ces réponses sont... Nous sommes au stade d'un projet d'urbanisme avec un rendu qui est limité à 2 planches par candidat. La question du logement, de la typologie du logement, elle est abordée d'une façon extrêmement générale. Tout simplement les bâtiments avec leurs affectations logement ou activités sont signalés dans les projets par zone, de façon à ce qu'on puisse se rendre compte peut-être quelle zone est plus favorable qu'une autre pour accueillir du logement.
Ce que peut-être on pourrait rajouter au propos de Charles Pictet, c'est que un certain nombre de projets, pas nécessairement les projets primés, ont engagé le territoire dans une sorte de mutation douce. C'est-à-dire que le lieu qui est occupé aujourd'hui par les petites industries est ponctuellement remplacé par de l'habitat, incluant parfois même encore de l'activité au rez-de-chaussée. Donc on voit qu'on est dans une sorte de lente mutation du site qui fait que ce lieu ne nie pas sa réalité d'aujourd'hui, mais intègre au contraire la possibilité d'y inclure, disons, le rapport logement-activité dans une formule peut-être moins industrielle qu'aujourd'hui, à savoir qu'il faut admettre que beaucoup de dépôts aujourd'hui occupent ce lieu. Donc c'est clair que ce statut-là serait mené à disparaître.
Oui, Jean-Peter.
Poursuivre encore dans ce que dit Pierre Bonnet. On nous a reproché, au moment du lancement de ce concours, de venir avec une forme d'arrogance faire les planificateurs d'un secteur sur lequel sont installés aujourd'hui beaucoup d'activités qui représentent évidemment un grand nombre d'emplois. Notre réponse à cela était que, d'une part, une mutation comme celle qui impliquerait un développement de cette zone qui vienne y installer du logement et la densité de la ville est un processus lent, donc il ne s'agit pas de mettre tout le monde dehors d'un seul coup et de remplacer ça avec une nouvelle infrastructure. Donc ce processus de mutation lente est en effet, comme le disait Pierre Bonnet, une des composantes de la plupart des projets qui ont intéressé le jury. Et puis d'autre part, sur ce thème des activités et de leur suppression sur ce secteur, la suppression d'activités sur un secteur ne veut pas dire la suppression de l'activité. Ça signifie simplement son déplacement vers d'autres régions de la ville qui sont plus à même de les recevoir, ne serait-ce que la valeur du terrain. Moi, je me souviens quand j'étais enfant d'avoir des stations d'essence à proximité de la vieille ville. Aujourd'hui, il n'y en a pour ainsi dire plus. Certaines activités migrent naturellement vers la périphérie et on peut très bien imaginer sans du tout les citer. Il est facile d'imaginer quel type d'activité arriverait à pouvoir se déplacer, quitte à garder une vitrine en centre-ville pour ensuite un service qui se trouve sur une périphérie plus éloignée.
Nous allons bientôt arriver au terme de cette émission. Charles Pictet et Pierre Bonnet, ce que vous aviez en conclusion sur les différents projets, quelque chose à ajouter sur cette nouvelle identité que va acquérir la Praille, ou cette mutation plutôt qu'une nouvelle identité?
En tout cas, je dirais que c'est une vraie occasion de parler du paysage urbain. Ici, on a la chance d'avoir une position excessivement stratégique dans la ville et que nourrir un débat là autour avec des projets à la clé, c'est peut-être la meilleure façon pour nous de parler de la ville, c'est-à-dire de la ville comme un lieu de projet et non pas comme un lieu d'opération au coup par coup ou figé pour un temps. Et c'est pas par là l'envie de remettre en question, mais c'est au contraire d'être synthétique sur une vision d'ensemble qui est ici vraiment encore plus complexe qu'on pouvait l'imaginer.
Jean Pictet.
J'aimerais juste signaler que l'organisation de ce concours et donc l'exposition qui ouvre maintenant le 20 et qui va durer jusqu'au 20 novembre n'est pas le terme du travail que nous faisons sur ce secteur. Nous voulons maintenant, à la suite de l'exposition, organiser différentes tables rondes et débats autour de ce sujet, de façon à pouvoir entendre les différents acteurs en présence. Et puis, nous avons le projet de réunir tous les projets qui nous ont été remis dans une publication qui sera implémentée de commentaires de plusieurs membres du jury et de plusieurs personnes à qui on pourra demander des articles, de façon à pouvoir garder un souvenir, une trace pratiquement utilisable de ce concours, de façon à ce que ces propositions puissent se retrouver sur les tables et puissent être éventuellement utilisées comme matière à réflexion. Donc on espère pouvoir faire paraître ce livre dans le courant de la fin de l'été ou de l'automne 2006.
Et pour nos auditeurs, dans quels locaux va se dérouler l'exposition ?
Alors, les locaux de l'exposition se trouvent au 47 rue des Acacias, donc à l'extrémité de la rue des Acacias, sur l'arrêt, c'est l'avant-dernier arrêt avant le parking de l'Étoile. C'est dans un bâtiment qui s'appelle Acacia Centre, au dernier étage, tout en haut, ce sera indiqué.
Ce sont des projets qui sont donc présentés par dessin, oui, des maquettes, comment ça se présente ?
Ce sont les planches que nous avons demandées, donc ce sont des planches imprimées qui sont affichées.
Et que l'on pourra voir à partir du 20 octobre.
À partir du 20 octobre.
Alors Pierre Bonnet, Charles Pictet, merci.